Chapitre 8e. Rencontre du Jupiter. Chasse. Combat. Victoire. Le scorbut. Comment on fait de l'aquarelle sans le savoir. Retour à Maurice. Nous nous trouvions vers les 5 heures du soir, au moment où l'on allait servir la soupe à l'équipage, à la cape et sous la menace d'un redoublement de mauvais temps, car nous avions alors atteint les dangereux parages du banc des aiguilles, lorsque l'aspirant chargé du coup d'œil du soir envoya un gabier de misaine, ne pouvant faire entendre lui-même sa voix à cause du rugissement de la tempête, prévenir l'officier de quart qu'il voyait un navire, au vent à nous, par le bossoir de tribord. Aussitôt des matelots sont échelonnés sur la mâture pour transmettre, télégraphe vivant, les paroles qui vont s'échanger. « Comment court-il ? » demande l'ermite, que l'on a été prévenir. « Il gouverne bâbord à mur pour nous accoster au vent en dépendant, » répond l'enseigne Graffin, qui s'était empressé, à la nouvelle de l'approche d'un navire, de monter sur les barres du petit perroquet. « Gouvernons-nous bien à sa rencontre ? Un peu sous le vent, commandant. Est-il loin ? Non, commandant, on voit son bois lorsqu'il s'élève sur la lame. Quelle est sa voilure ? Il est sous ses huniers, les ris pris et sa misaine. Paraît-il gros ? Tellement gros que ce doit être un vaisseau de guerre, répond l'enseigne d'une voix joyeuse et accentuée qui domine le bruit de la tempête. Cette annonce, on le devine, produisit une vive impression sur l'équipage. Monsieur Fabre, poursuivit le capitaine l'ermite en s'adressant à l'officier de manœuvre, faites gouverner à la rencontre de ce navire. Très bien. Tiens bon, le souper de l'équipage. Branle-bas général de combat, passe les manœuvres de combat et bosse partout. En haut, larguez le petit hunier et le perroquet de fougue. N'arrivons pas, timonier. La violence de la tempête et le manque de monde, car nous avions perdu près de 50 hommes, y compris les blessés, à l'affaire de la baie de la Goa, rendaient très difficile l'exécution de ces ordres, qui se succédaient avec tant de rapidité. Toutefois, l'enthousiasme qui régnait à bord suppléait à la diminution de nos forces, et en un instant, les canons furent préparés, les bouts de feu allumés, l'enseigne de poupe et les pavillons apprêtés. Quant à la preneuse, grâce au surcroît de voilure tombée du haut de ses vergues, elle s'élança en ouvrant avec sa proue un large croissant d'écume au milieu des flots. Bientôt, nous pûmes apercevoir le vaisseau ennemi du haut de nos bastingages. Un grand silence se fit. Dans leur course rapide et voguant à contre-bord, les deux navires se rapprochaient l'un de l'autre à vue d'œil. Bientôt ils se croisent, mais le vaisseau ennemi, courant à leur grand large et se trouvant à demi-portée de canon de nous, laisse arriver, dès qu'il a atteint notre arrière, et vire de bord, lof pour lof, afin de prendre nos amures en nous accostant au vent. « Vraiment, messieurs, dit l'ermite en voyant cette évolution, nous ne pouvons refuser de reconnaître à ce navire, quelque amour que nous portions à la preneuse, une marge bien supérieure à celle de la frégate. Au reste, le doute n'était plus possible. C'était un vaisseau de guerre que nous avions par notre travers. Restait à reconnaître sa nationalité. La tempête, en ce moment, comme si elle eût voulu s'associer par ses fureurs à la scène de carnage qui probablement allait avoir lieu, redoubla de violence. C'eût été un spectacle bien saisissant pour un habitant des villes que ces deux navires secoués par une mer déchaînée et qui oublient les dangers dont elle les menace pour ne songer qu'à s'attaquer et à se détruire. 20 fois des vagues énormes et irrésistibles nous rapprochèrent à une si petite distance de l'ennemi que nous crûmes à un abordage. Si nos prévisions se fussent réalisées, notre perte et la sienne eussent été simultanées et communes. Pas un seul homme n'eût probablement survécu pour raconter cette catastrophe. Enfin, l'ermite profita d'une semi-éclaircie du temps pour opérer la reconnaissance. « Ici notre numéro, » dit-il. Et le numéro monta la corne. « À présent, attention !» En effet, à peine le capitaine achevait-il de prononcer ce dernier mot, qu'un éclair brilla et qu'une détonation retentit. C'était un coup de canon à boulet que nous adressait ce vaisseau pour assurer ses couleurs anglaises. Le silence qui régnait déjà à bord redoubla alors, si je puis me servir de cette expression, d'intensité. On n'entendit plus que le bruit sourd des canons retombant lourdement sur le tillac, à coups d'anspect nécessité pour le pointage. « Amène le numéro, hisse le pavillon et feu partout !» s'écria l'ermite. Nous nous trouvions si rapprochés de l'anglais que son commandement arriva également à nos oreilles. Par un singulier hasard, les deux capitaines prononcèrent le mot « feu » en même temps. Les deux bordées éclatèrent comme un seul coup de tonnerre. Il paraît que la fatalité qui, depuis 5 jours, semblait s'acharner après nous, n'était pas encore satisfaite de nos désastres, car bien que nous eussions tiré du côté du vent, la mer embarqua en plein sabord. Ce malheur nous démontra jusqu'à l'évidence qu'il y avait impossibilité matérielle à continuer l'action de la batterie. Qu'on hale les pièces dedans et qu'on les recharge, dit l'ermite de cette voix calme et tranquille qui était sa voix de combat. Vous, monsieur Fabre, poursuivit-il, faites larguer les 3 ris de chacun des huniers et orientez à 2/4 de largue sous les voiles majeures la brigantine, la grande voile d'étai et le grand foc. Quel malheur, mon cher Graffin, continua-t-il en s'adressant à cette enseigne, son favori, d'avoir sous les pieds un navire mauvais marcheur. Enfin, j'espère que sous cette nouvelle allure, qui lui est la plus favorable, la preneuse pourra se soustraire. N'ayez pas cet air désespéré, monsieur Graffin. Se soustraire, hélas, momentanément, entendez-vous, à la poursuite de l'Anglais, car ce serait folie, vraiment, d'engager le combat avec seulement nos canons de gaillards contre ceux de la batterie haute et des gaillards de notre ennemi. La chasse commencée, le même silence continua de régner parmi notre équipage. On ne prononçait pas un mot qui ne fût strictement nécessaire à l'exécution des ordres donnés par le capitaine. Dès que nous eûmes établi 6 voiles de plus que notre adversaire, nous le dépassâmes promptement malgré la supériorité de sa marche. « Il faut espérer, capitaine, dit M. d'Albarade, que si la preneuse continue à se comporter aussi bien, elle finira par échapper à l'Anglais. » L'ermite ne répondit pas à cette observation, faite en guise de question, que par un mouvement de tête exprimant, sinon une négation, du moins un doute complet. « Je crois que vous vous trompez, monsieur d'Albarade, s'écria vivement l'enseigne Graffin. « Si l'Anglais ne nous rejoint pas, c'est qu'il ne trouve probablement pas le moment propice pour engager le combat avec des chances certaines de succès. Mais soyez bien persuadés qu'il nous regarde comme sa proie. Après tout, on a vu des Anglais se tromper. » ajouta M. Graffin en souriant d'un air joyeux. Une des qualités, ou pour être plus exact, la qualité essentielle de la preneuse, était celle de bien porter la voile. Aussi le capitaine profita-t-il, autant qu'il put, de cet avantage pour l'en surcharger. Bientôt, le navire, couché sur le flanc de bord, laboura la mer, de bout en bout de sa longueur, avec ses canons de gaillard. Nos mâts courbés outre mesure menaçaient de se rompre à chaque tangage. Le froissement des agrès, le sifflement aigu du vent à travers les cordages, le grincement d'un grand nombre de pièces de la carène mises en jeu par l'agitation du navire, enfin le craquement des affûts des canons que l'on s'efforçait de fixer au milieu du tillac, formaient un discordant et sinistre concert, rendu plus triste encore par un crépuscule presque aussi sombre que la nuit. Pour surcroît d'ennui, les blessures mal bouchées de la carène, malheureux souvenir de la baie de la Goa, laissait pénétrer la mer dans la cale et nécessitait constamment l'emploi des 4 pompes. Ce travail, aussi pénible qu'indispensable, achevait de briser l'équipage déjà accablé de fatigue. Mais personne ne songeait à se plaindre, il s'agissait du salut commun. Ce fut à ce moment que le médecin du bord vint trouver l'ermite qui se promenait sur la dunette. « Capitaine, lui dit-il d'une voix émue, si vous ne changez pas l'allure du navire, je ne puis plus répondre d'un seul de mes blessés. Leur position est atroce. Jetés à chaque instant hors de leur couchette par les secousses de la frégate, ils roulent d'un bord à l'autre de l'entrepont dans d'épouvantables souffrances. Plusieurs sont déjà morts. « Assez, docteur, assez !» s'écria l'ermite en l'interrompant d'un ton de douleur profonde. « Ne me déchirez pas ainsi inutilement le cœur et n'affaiblissez pas mon courage. Dieu qui m'entend et voit clair dans mon âme sait que je n'hésiterai pas à sacrifier ma vie s'il le fallait pour sauver ces malheureux. Mais à bord de la preneuse, en ce moment, je ne puis être un homme. Je dois rester capitaine. » Le docteur, habitué au service et connaissant l'ermite, s'inclina devant lui et s'éloigna sans répondre. Il s'attendait sans nul doute au refus qui accueillit sa prière, mais il avait dû lui aussi obéir à ce que lui ordonnait de faire son devoir. Soit que le vaisseau anglais comptât sur sa marche supérieure, soit que, pour ne pas s'exposer à des avaries, il fut déterminé à ne pas augmenter sa voilure tant qu'il nous tiendrait en vue, toujours est-il qu'il se laissait tellement gagner de vitesse par la preneuse que l'équipage commençait déjà à concevoir l'espoir de lui échapper. La bourrasque s'était un peu calmée. Le capitaine, entouré de ses officiers, s'entretenait avec eux de notre position. Si par instant il s'associa à leur espérance, C'était avec un tel accent de doute que son approbation équivalait presque à une négation formelle. « Au surplus, messieurs, leur dit-il enfin, mes instructions s'opposent formellement à ce que j'attaque à forces inférieures. Me le permettrait-elle que j'hésiterais peut-être en ce moment ? Oui, j'hésiterais, car ce vaisseau se trouve près de son port, tandis que plusieurs centaines de lieues nous séparent de l'île de France. Oui, mais fuir encore, fuir une seconde fois, fuir toujours dans cette croisière, c'est affreux. « Ah ! » s'écria-t-il après un léger silence, et en écartant par un geste de tête saccadé et nerveux les boucles de sa chevelure blonde que le vent ramenait sans cesse devant ses yeux. « Je sens que si j'avais ma liberté d'action, mon amour-propre blessé de Français et de marin me ferait oublier toute prudence. Oh, pour 2 heures de combat, je donnerais 10 ans de ma vie !» L'ermite, après avoir prononcé ces paroles avec une ardeur concentrée, tira de sa poche un papier plié qu'il avait paru chercher avec impatience et inquiétude. Il le lut à la lumière de l'habitacle et le resserra ensuite soigneusement. « Capitaine, dit le lieutenant Rivière en abaissant sa longue vue, je n'aperçois plus l'anglais. » Aussitôt tous les yeux, toutes les longues vues de nuit se dirigèrent vers le point de la boussole qui excitait nos alarmes. Le vaisseau anglais avait disparu. Une fois que ce fait fut bien constaté à l'unanimité par tous les officiers, le capitaine ordonna de laisser arriver vent arrière pour faire fausse route et de paqueter, tant bien que mal, les voiles au plus vite. L'obscurité qui nous enveloppait alors était si profonde que nous ne pouvions presque plus distinguer le fait de notre mâture. Or, il était bien permis de croire que si nous n'apercevions plus l'ennemi, quoiqu'il eût ses unis établis et qu'il nous présentât le travers, à plus forte raison la frégate, mise alors à sec de voile et placée debout, était devenue pour lui invisible. L'espoir commença à rentrer dans le cœur de l'équipage. Néanmoins, et en dépit de toutes les chances favorables, un mouvement de tête que fit l'ermite en descendant de la dunette et un singulier regard qu'il jeta du côté où devait se trouver l'ennemi, je restais convaincu, tant j'avais confiance dans l'infaillibilité de notre commandant, que nous n'étions nullement hors d'affaire. 2 heures étaient sonnées depuis près de 20 minutes, lorsque la lune, dissipant les vapeurs lointaines de l'est, se montra radieuse. Tous les regards se tournèrent spontanément vers l'ennemi, et toutes les bouches laissèrent échapper une expression de joie en ne le voyant plus à l'horizon. Presque au même instant, l'ermite, placé en observation avec son lieutenant en pied près du couronnement, appela l'officier de manœuvre. « Comme je m'y attendais, monsieur Fabre, dit-il tranquillement, la lune nous a trahis. Voyez, le vaisseau nous chasse encore dans notre fausse route. Hélas, c'est vrai, commandant, il a le cap sur nous et il conserve toujours la même voilure qu'au commencement de la chasse. Je parierais qu'il n'a pas perdu un seul détail de notre manœuvre. Allons, dit l'ermite en s'avançant un grand pas vers le bord intérieur de la dunette, orienté sous la même allure que précédemment. Il fallait être, comme l'était l'ermite, un sublime esclave du devoir pour oser reprendre cette allure. Car l'énorme poids de la voilure forçait si puissamment la frégate à chaque tangage, sa proue était submergée à une hauteur si effrayante, son gouvernail perdait tellement de son action, que nous nous trouvions exposés à un danger immédiat. Tout le monde à bord faisait à part soi ses tristes réflexions quand un effroyable craquement de la mâture vint suspendre les travaux de l'équipage. Les gabiers s'empressèrent d'abandonner leur poste. C'est le boudeur de misaine qui est cassé. Et là de suite, le lieutenant en pied. « Y a-t-il des hommes atteints ?» demanda vivement l'ermite. « Non, capitaine, personne. Alors ce n'est rien, rentrez la bonnette. » En ce moment, l'espars brisé, obéissant au battement répété de la bonnette, blessa plusieurs travailleurs et s'en fut déchiré la misaine. Un mouvement de confusion, presque d'épouvante, suivit ce malheur. Mais à la voix si puissante sur lui de l'ermite, l'équipage retrouve bientôt son zèle et son sang-froid. En moins 1 heure et demie, la voile arrachée de sa vergue est remplacée et active de nouveau la marche de la frégate. Pendant le cours des travaux nécessités par ces avaries, il était alors 3 heures et demie, la tourmente s'était apaisée. Le navire, remis un peu en équilibre, fatiguait moins et gouvernait mieux. L'équipage, libre de son temps, examinait avec une anxieuse attention notre chasseur, dont la voilure, éclairée à pic à son sommet, par la lune approchant du zénith, prenait de loin l'aspect d'un immense glaçon couvert de neige. L'ermite, voyant la preneuse en bonne position et n'ayant plus à s'inquiéter de la manœuvre, invite les officiers et l'équipage à profiter de l'intervalle qui les sépare encore de l'heure du combat pour prendre un peu de repos. Des surveillants sont placés aux drisses et aux écoutes, et il reste seul sur le pont avec son lieutenant en pied d'albarade. Assez longtemps, absorbés tous les deux par leurs pensées, ils se promènent sans prononcer une parole. Enfin, M. d'Albarade, dont le caractère violent, tyrannique même, avait parfois besoin d'une victime, rompit le silence en s'adressant à un quartier-maître. « Éveillez-moi cette caronne à grands coups de corde » s'écria-t-il en lui désignant un malheureux matelot qui, chargé de surveiller la drisse du grand perroquet, avait cédé au sommeil irrésistible produit par la fatigue et s'était assoupi. « Arrêtez !» dit l'ermite. « Je vais réveiller moi-même cet homme. » Le capitaine se pencha alors vers le coupable, appuya doucement sa main sur son épaule. Celui-ci ouvrit de suite les yeux. « Mon ami, lui dit l'ermite, je ne pourrai donc plus avoir désormais confiance en toi. Comment, tu dors, et l'ennemi est là? Laisse là ton poste, puisque tu n'as pas assez de courage pour faire céder ta fatigue au devoir, et va-t'en. » « Capitaine, dit le matelot ému de la bonté de son commandant, et en joignant ses mains par un mouvement naturel et irréfléchi, plein de désespoir et de prière, je suis dans mon tort. Mais voyez-vous, je ne sais pas comment ça s'est fait, enfin, laissez-moi mon poste, je vous en prie, et si je me rendors, eh bien, qu'on me fusille. Je veux bien te pardonner cette fois, mais souviens-t'en. Ah, capitaine, si jamais je... » Le matelot, embarrassé probablement pour achever sa phrase, se donna un énorme coup de poing sur la tête et se tut. Ce coup de poing valait plus qu'un long discours. « Lieutenant d'Albarade, reprit l'ermite, sans songer probablement que je me trouvais derrière lui à la barre et que je l'écoutais, vous êtes trop dur envers l'équipage. Je ne veux pas attribuer votre conduite à un caractère cruel, et j'aime mieux la rejeter sur l'excès de zèle que vous déployez dans l'accomplissement de vos devoirs. Mais croyez-moi, le premier devoir d'un chef est d'abord de se faire aimer de ses subordonnés, car c'est seulement au moyen de cet attachement qu'il peut obtenir d'eux ce dévouement et qui rend l'impossible possible et permet d'accomplir de grandes choses. » M. d'Albarade ne répondit pas, mais la façon dont il se pinça les lèvres, je compris que la remontrance du capitaine était inutile et perdue. La lune disparut bientôt pour faire place à l'aube du jour. Il était alors près de 5 heures. L'ermite, exténué de fatigue, s'était assis sur l'affût d'un obusier. Tantôt il examinait avec inquiétude la mâture de la frégate, pliant comme un roseau sous l'effort des voiles, actuellement tout établi. Parfois il jetait un regard sur le vaisseau anglais, qu'il apercevait à chaque tangage par les fenêtres de la dunette, puis il retombait ensuite dans ses réflexions. Enfin, vaincu par la nature, il appuya sa tête sur sa main et finit par s'endormir. Midi sonnait, et l'ennemi ne se trouvait plus qu'à une portée de canon sur notre arrière. L'équipage, respectant le sommeil de son capitaine, avait observé, en opérant les préparatifs du combat, un profond silence, lorsque l'ermite, comme si un pressentiment l'eût averti que l'heure solennelle du combat allait sonner, ouvrit tout à coup les yeux et d'un bond se mit sur pied. Son premier regard fut pour le vaisseau ennemi. En le voyant si près de la frégate, un sourire joyeux s'épanouit sur son visage. Peut-être voulait-il inspirer de la confiance à l'équipage, peut-être aussi, et cette supposition est tout à fait en rapport avec son caractère, éprouvait-il une joie sincère en pensant qu'il lui allait être enfin permis, tout en obéissant à ses instructions, de couvrir notre fuite prolongée d'un peu de gloire. Il fit appeler ses officiers sur la dunette et leur communiqua son intention de passer avec eux une revue de l'équipage. Ce projet fut aussitôt mis à exécution. Les vides qu'il remarqua dans plusieurs postes importants l'attristèrent d'abord en lui rappelant nos désastres de la baie de Lagoa. L'ermite était peut-être le capitaine qui exposait le plus impitoyablement ses hommes pendant le combat, mais l'action terminée, son devoir accompli, il ressentait l'affliction profonde d'un bon père de famille frappé dans ses enfants. Pendant l'inspection, il expliqua minutieusement au canonnier la manière dont il voulait que l'artillerie fût servie, puis, trouvant dans son cœur et dans la connaissance qu'il possédait de son équipage, de ses à-propos qui, dans la bouche d'un chef, enflamment ou soutiennent les esprits, il ne remonta sur le pont qu'après avoir fait passer dans l'âme de tous l'enthousiasme dont il était lui-même animé. Cette revue, imposante et paternelle tout à la fois, terminée, 3 hurrahs simultanés et éclatants retentirent sur le pont en l'honneur de l'ermite. « À présent, messieurs, reprit-il en s'adressant à ses officiers, veuillez écouter, je vous prie, avec la plus grande attention, le plan de combat que je veux mettre à exécution. Jusqu'à présent, la manière de combattre, toujours uniforme, toujours la même, consiste à commencer par une volée et à finir par un coup de canon. Je ne prétends pas en discuter le mérite. Seulement, dans la position difficile, mon Dieu, presque désespérée dans laquelle nous nous trouvons, nous devons sortir des règles ordinaires de la guerre. Une tactique nouvelle peut seule nous sauver. Je vais mettre en pratique une théorie que je médite depuis longtemps. Écoutez-moi bien. D'abord, je compte faire tout mon possible pour enlever ce vaisseau à l'abordage. Nous serons à peine un homme contre deux, j'en conviens, mais n'oubliez pas, messieurs, que nous sommes des Français. Dans tous les cas, afin de donner le change à l'anglais et d'effrayer son monde, on dirigera la première volée, chargée à trois boulets ronds entre les deux batteries, au pied de son grand mât. Les autres volées, à deux boulets, seront pointées dans la même direction, mais à fleur d'eau, de manière à pouvoir couler et démater à la fois, mais surtout couler. À cet effet, j'approcherai du vaisseau autant que possible. Je ne veux pas perdre un coup, et il faut. Ceci est pour nous une question de vie ou de mort, que nous parvenions à établir à sa flottaison une brèche inétanchable. Or, en supposant, au pis-aller, que nous logions un quart de nos boulets seulement dans son flanc, ce sera déjà 20 boulets par bordée. Eh bien, je vous garantis, moi, que nous n'en tirerons pas 4 sans savoir à quoi nous en tenir sur notre destinée. À présent, mes amis, à vos postes. Transmettez ponctuellement mes instructions à l'équipage et que les armes d'abordage soient sous les mains des combattants. Quant à vous, messieurs, attendez mes ordres avec patience, recevez-les avec confiance et faites-les exécuter avec énergie. » Pendant que l'ermite passait sa revue et donnait ses instructions, le vaisseau anglais s'était approché à 3/4 de portée. Notre commandant fit aussitôt jouer les 4 canons de retraite. Peu après, plusieurs trous angulaires apparurent dans les voiles du 64-4 et prouvèrent que nos artilleurs avaient pointé avec leur justesse habituelle. Quoique le feu durât depuis près de 20 minutes et que le vaisseau anglais ne fût guère plus éloigné alors de nous que d'une petite demi-portée de canon, il ne daigna pas répondre à notre attaque. « Il paraît, capitaine, dit le lieutenant Rivière en reparaissant tout à coup par l'écoutille de la batterie, que l'anglais nous ménage. Il craint d'abîmer sa prise future. Peut-être bien attend-il qu'il soit par notre travers pour nous sommer de nous rendre. « Nous rendre ? » répéta vivement l'ermite en se redressant de toute sa hauteur sur son banc de car. « Allons donc. Il est impossible que l'anglais ait une telle opinion de nous. Il craint tout bonnement de retarder sa marche en nous tirant en chasse. Quant à nous rendre, reprit-il après une seconde de silence, ce malheur, il est vrai, peut arriver. Les hasards des combats sont si imprévus que l'homme, dans son orgueil, a tort de croire pouvoir les dominer par son génie. Mais enfin, si cette humiliation nous est réservée, je n'y assisterai pas, je puis vous en donner ma parole. » En ce moment, l'officier de manœuvre vint avertir le capitaine que le vaisseau laissait arriver. « Très bien, dit l'ermite, il veut nous envoyer s'aborder en poupe et il a raison. Seulement, il n'y réussira pas. Laissez arriver aussi et ripostons à s'aborder par la nôtre. » Quand les deux navires furent presque vent arrière et que les boulets purent se croiser, un épais nuage de fumée, précédé d'une trombe de flammes et d'une effroyable détonation, les ensevelit tous les deux dans ces chaudes vapeurs. Les boulets de l'ennemi dirigés sur la mâture de la frégate ne lui occasionnèrent que de légères avaries. Quant aux nôtres, nous ne pûmes voir l'effet qu'ils produisirent. Une fois la bordée partie, le vaisseau revint au vent et recommença à poursuivre la frégate. Nous imitâmes sa manœuvre et la chasse continua comme auparavant, c'est-à-dire la preneuse tirant en retraite et le vaisseau se rapprochant toujours d'elle, en silence, sans paraître se soucier ou même s'apercevoir des petits accidents que de temps à autre notre feu lui causait. Deux fois seulement, le capitaine anglais, espérant probablement forcer la frégate à l'attendre, au moyen de la chute de quelques-uns de ses mâts, nous envoya de nouvelles bordées qui furent rendues par nous, comme les premières, sans résultat majeur. Enfin, les navires en vinrent à ne plus se trouver qu'à une demi-portée de fusil tout au plus. Les servants de nos pièces apercevaient les servants ennemis à travers les sabords. « Mon Dieu !» s'écria tout à coup l'ermite, lorsque la faible distance qui nous séparait des Anglais eut encore diminué de moitié. « Auriez-vous entendu mes vœux ? L'événement que j'ai tout fait pour amener se réaliserait-il ? Oh non, ce serait trop de bonheur, je n'ose y croire. « Messieurs, continua-t-il en appelant les officiers les plus proches de lui, venez, je vous prie. Cinq ou six officiers, le lieutenant en pied d'Albarade et l'ancien graffin en tête, accoururent aussitôt. « Messieurs, leur dit l'ermite, ce n'est pas un conseil que je veux vous demander car ma résolution est prise. Ce que je désire, c'est que, le cas de ma mort échéant, vous puissiez expliquer ma conduite et ne laissiez pas planer sur ma mémoire un soupçon de désobéissance ou de légèreté. Mes ordres, des ordres précis et formels, m'ordonnent de fuir continuellement devant toute force supérieure, de n'accepter le combat qu'à la dernière extrémité, vous entendez, qu'à la dernière extrémité, c'est-à-dire lorsque j'y serai contraint. Or, en ce moment, nous sommes seulement chassés, et je dois, pour me conformer à mes instructions, fuir encore. Mais fuir en ripostant timidement, sous toute voile, au feu de l'ennemi, c'est exposer, que dis-je, dévouer la frégate à un incendie certain, inévitable. Je ne puis me courber devant cette idée. Ce serait lâcheté, ce serait folie. Êtes-vous de mon avis ?
Oui, capitaine, s'écria avec enthousiasme l'ancien graffin. Ce serait lâcheté et folie.
Les autres officiers s'empressèrent d'appuyer de leur approbation l'opinion émise par l'enseigne.
« Merci, messieurs, leur dit l'ermite, dont la noble figure resplendit de joie. Merci, à présent je ne crains plus rien. Arrive qui arrive, ma mémoire aura des défenseurs. Oui, plus j'y réfléchis et plus je suis convaincu qu'au point où en sont les choses, je ne puis ni ne dois agir autrement. Il faut savoir prendre conseil des circonstances. Les grands succès dépendent souvent des coups d'audace. Osons donc. »
L'ermite fit une légère pause, puis, probablement après un dernier moment de réflexion suprême,
« Balfe, reprit-il de sa voix vibrante, les canons de retraite en batterie, tout le monde à son poste. Amène et cargue les perroquets, cargue les basse-voiles et hale le grand foc et les voiles d'été. »
Dès que le 64 s'aperçut que la preneuse lui présentait le combat sous les huniers seulement, il s'empressa d'imiter sa manœuvre et offrant à nos coups, à 25 toises au plus de distance, son flanc de tribord, il nous héla d'amener nos couleurs.
« Feu partout !»
fut la réponse de l'ermite et une ceinture de flammes s'échappa de nos sabords. Comme l'espérait notre intrépide et habile capitaine, il avait certes fait tout son possible pour provoquer cet événement. Le vaisseau, fier de ses avantages et surpris au dépourvu par la brusque témérité de notre manœuvre, ne put, malgré toute la promptitude possible, diminuer de voile assez à temps pour nous maintenir bord à bord. Entraîné justement par la supériorité de sa marche, il dut nous laisser de l'arrière. À travers les masses de fumée qui roulaient entre lui et nous, nous apercevions la sommité de sa mâture, qui nous indiquait par la vitesse de son déplacement et la faute qu'il avait commise et l'immense partie que nous devions en tirer. Quant à l'ermite, une telle métamorphose s'est opérée en lui qu'il n'est plus reconnaissable. Une auréole de gloire rayonne, pour ainsi dire, sur son front radieux et inspiré. De temps en temps, il lève au ciel ses yeux brillants d'enthousiasme et humides de reconnaissance. « Messieurs, s'écrie-t-il avec transport, c'en est fait. L'ennemi n'était pas préparé comme nous à diminuer de voile. Maintenant, il a beau masquer les siennes, il est trop tard. Voyez, il nous dépasse. Il est tombé dans le piège que je lui tendais. Aucune puissance humaine ne pourra m'empêcher maintenant de lui passer en poupe ou de l'aborder.
« La barre dessous, timonier »
s'écria-t-il alors d'une voix tremblante de joie.
« En haut, tout le monde, à l'abordage, hissez les grappins !»
Et la frégate, venant du lof, met le cap sur le travers de son ennemi. Le feu de la mousqueterie commence.
« Commandant !» s'écrie d'Albarade. « Il va encore trop de l'avant, nous ne pourrons pas l'aborder. »«
Peut-être, » dit l'ermite. « Après tout, j'aime autant lui passer en poupe. »
Enfin, les deux navires se croisent et sont prêts à se heurter. La mer resserrée entre leurs flancs rejaillit sur les combattants placés sur le pont. Mais ces humides et fraîches caresses ne tempèrent en rien la fureur de ces hommes que le feu du carnage anime. La poulaine de la frégate semble s'abaisser humblement devant la poupe orgueilleuse du vaisseau qui la domine. Du haut de ce retranchement, les Anglais, stimulés par le danger, car ils commencent à comprendre à qui ils ont affaire, excités surtout par la haine nationale, encouragés par la voix de leur chef, tue en poussant des cris de défi et de joie nos gens placés à découvert sur les gaillards. Des deux côtés, les matelots armés jusqu'aux dents, répartis dans le gréement, accrochés à toutes les saillies des navires, attendent, l'œil flamboyant, l'injure à la bouche, les joues pourpres de rage, le moment de l'abordage. Nos hommes maudissent, en accompagnant leurs regrets, pour les adoucir un peu, de coups de fusil et d'espingoles,
la distance qui les sépare encore de l'anglais. Hélas, la preneuse trahit de nouveau par sa marche, au lieu d'atteindre avec sa poulaine l'embelle de son ennemi pour l'aborder favorablement, touche seulement son couronnement du bout de son beaupré. Dès lors, plus d'espoir d'en venir à l'arme blanche. Nos gréements retentissent des imprécations poussées par nos matelots dans cette vaine tentative à combler la fureur. Le Jupiter, c'est alors seulement que l'on découvre le nom du vaisseau anglais, écrit sur son arrière, « Le Jupiter nous dépasse de l'avant ».
Envoyez-lui la volée en poupe maintenant, pointée sur son gouvernail, et ne tirez qu'à coup sûr, entendez-vous, qu'à coup sûr, enfant !
Elle l'ermite au canonnier, à travers les cris des deux équipages. L'abordage n'a pas lieu, et cependant, au bruit des tambours et des fanfares, au rugissement de nos matelots cloués vifs sur le pont par les grandes piques des Anglais, on croirait les deux navires aux prises. La rage atteint chez nous son apogée. Non seulement la fusillade continue, ardente et serrée à bout portant, mais il y a des matelots qui, ne trouvant pas de quoi satisfaire leur haine en appuyant le doigt sur la gâchette de leur arme, jettent leurs mousquets sur le pont et, se saisissant de tous les objets les plus meurtriers qui leur tombent sous la main, les lancent sur l'ennemi en les accompagnant d'imprécations inconnues jusqu'à ce jour. Tout à coup, un horrible craquement vient dominer le tumulte de la bataille et calmer un peu les esprits. C'est notre boutor de Clinfroc qui se rompt contre la dunette du Jupiter et qui tombe à la mer avec sa voile. Malgré cette avarie, la preneuse, continuant sa course avec précision, lâche d'enfilade et à bout portant sa volée dans l'arrière du vaisseau. L'effet de cette volée est immense. Elle massacre les équipages des deux batteries du Jupiter, le désempare de son gouvernail et de ses voiles, mutile et disperse les magnifiques sculptures de sa superbe poupe et fait voler en éclats ses yoles élégantes. Son accastillage tombe en morceaux. Et bientôt la poupe du vaisseau offre à l'œil l'entrée d'un gouffre obstrué par des débris.
« Chargez maintenant à deux boulets ronds !»
reprend aussitôt l'ermite d'une voix impassible. La preneuse, ayant envoyé vent devant, nous l'avons déjà dit, pour aborder le Jupiter, et par conséquent ayant aussi masqué en passant sur son arrière, abat alors sur bâbord, laisse arriver ensuite, et profitant de l'état d'immobilité dans lequel notre terrible canonnade a réduit le Jupiter en le désemparant de ses huniers, lui lâche une seconde volée en poupe qui réussit presque aussi bien que la première. Les avaries du vaisseau anglais, quoique considérables, sont bientôt réparées. La preneuse, maîtrisée par l'infériorité de son sillage qui l'empêche de bien manœuvrer, doit renoncer à l'espoir d'envoyer à l'ennemi d'autres volées d'enfilade. Elle vient donc lui présenter bravement son flanc de bâbord. Les Anglais, exaspérés par leur désastre, et nos matelots enflammés d'enthousiasme, ne sont plus des hommes. Le feu recommence avec une violence effrénée. Les bordées éclatent avec la vivacité d'une fusillade. On ne voit plus rien, on n'entend plus. Partout de la fumée et de la flamme, l'ivresse est revenue. Bientôt les batteries sont inondées de sang. Les cadavres des gabiers, frappés de mort à leur poste de combat, tombent avec un son mat et sourd sur le tillac. Personne n'y fait attention. Quelques matelots blessés, épuisés de fatigue, sont cramponnés au cordage et implorent des secours. Vaine prière. Est-ce qu'on a le temps de s'occuper d'eux? On se bat, et les pauvres diables, ouvrant enfin leurs mains crispées par un dernier effort, tombent et disparaissent au fond de la mer. Nos voiles se déchirent, nos vergues, nos mâts volent en éclats, qu'importe, on se bat. L'ermite, le seul homme probablement à bord de la frégate qui n'ait rien perdu de son sang-froid, est toujours droit et immobile sur son banc de car. Il me semble, en passant près de lui, que je vois le dieu des batailles. De temps en temps, sa voix nette et vibrante se mêle au bruit du canon et redouble encore l'ardeur de l'équipage.
« Hardi, courage, mes enfants » s'écrie-t-il, « la victoire est à nous. Canonniers, deux boulets ronds à chaque coup, mais rien que deux boulets !»
Cette voix, je le répète, soutient les forces de nos hommes. Notre feu, loin de se ralentir, augmente plutôt, si cela est possible, de vivacité. Celui de l'Anglais, surtout dans sa batterie basse, faiblit. Après tout, il faut être juste. Nos volets en poupe lui ont fait tant de mal. Notre pointage actuel, concentré sur un seul point, est si terrible. Par la dérive du 64, qui nous masquait le vent, les deux navires se trouvaient alors très rapprochés. Le Jupiter, parvenu à réparer quelques-unes de ses avaries majeures, commençait à mieux gouverner, tandis que la preneuse, placée sous le vent à lui et désemparée de ses voiles, ne pouvait, malgré le désir et la volonté de l'ermite, tenter d'en finir à l'arme blanche. Toutefois, nos marins se consolent de ce malheur en se répétant qu'ils creusent le tombeau de leurs ennemis. Le capitaine, impatient malgré son sang-froid, cherche sans cesse à distinguer, à travers les bouillonnements des lames et les tourbillons de fumée, ce qu'il nomme notre brèche de sauvetage. Le mot répété par 100 bouches fait fureur et obtient un succès prodigieux dans la batterie. Il fait redoubler les pointeurs de soin et d'adresse et maintient leur justesse de tir. « Commandant !» s'écrie M. Fabre, empoignant un cordage et sautant du bastingage sur le banc de car, « nous tenons l'anglais. Sa flottaison est entamée. Regardez, je vous en prie, au pied de son grand mât, en arrière de son échelle. » « C'est vrai, monsieur, vous avez raison, » répond l'ermite en serrant la main de son lieutenant avec transport. Puis, d'une voix émue cette fois par la joie, « Courage, enfant, bravo, visez toujours au même endroit. » Pendant une heure, le feu continue avec la même précision, le même acharnement. L'ermite, l'œil ardent et inspiré, ne quitte plus de regard la brèche du Jupiter. Il lui faut, je le devine, une grande force de volonté pour ne pas laisser éclater la joie qui l'anime. Ce moment doit être le plus beau de sa vie. Ses officiers l'entourent en observant un profond silence. Ils respectent son bonheur. Enfin, l'ermite se retourne vers eux. « Messieurs, leur dit-il d'une voix calme et tranquille, nos boulets ont enfin rempli leur mission. Une autre brèche se forme à côté de la première. Il y a maintenant plus de 50 coups visibles dans un rayon de 10 pieds. Je crois donc pouvoir assurer, sans braver la fatalité, que nous sommes vainqueurs. « Annoncez, je vous prie, cette nouvelle dans la batterie. » Les officiers s'empressent d'obéir à cet ordre. Une minute ne s'est pas encore écoulée quand des cris de joie, plus furieux peut-être encore que ceux qui ont retenti pendant le combat, s'élèvent jusqu'aux cieux et prouvent que l'équipage partage les transports de son chef. Alors se passe une scène dont le souvenir est aussi vivant pour moi aujourd'hui que s'il ne datait que d'hier. Les Anglais se sont enfin aperçus qu'une submersion presque immédiate les menace. Quelques minutes d'inertie ou de faiblesse de leur part et c'en est fait. Tous, ils devront périr. Bientôt, nous apercevons, à travers les lueurs et la fumée du canon, des matelots du Jupiter qui, escaladant ses bastingages, se précipitent sur son flanc mutilé, mais toujours tonnant, afin d'essayer de réparer la morte et l'avarie que nous y avions faite. Ces malheureux, s'affalant en dehors par des cordages, essaient de clouer des planches, d'enfoncer à coups de masse des tampons, des matelas, des monceaux d'étoupe, mais hélas, chacun de ces hardis travailleurs doit subir une mort affreuse. Les uns broyés, littéralement parlant par nos boulets, couvrent de hideux et sanglants débris la muraille du Jupiter. Les autres, blessés mortellement, tombent et disparaissent subitement dans le nuage d'écume que soulèvent nos boulets. D'autres, plus malheureux enfin, atteints aussi par notre fer, sont parvenus à saisir un cordage et traînés, pendant et mutilés le long du sillage du Jupiter, qu'ils empourprent de leur sang, poussent des cris déchirants de détresse et appellent à leur secours. Leurs cris aigus tranchent sur le bruit sonore du canon et parviennent jusqu'à nous, mais nous y restons insensibles. Bien plus encore, nous dirigeons spécialement notre feu sur eux et sur ceux qui essaient de les sauver. À chaque coup de mousquet, une bouche se tait, un cadavre tombe. Il faut que ces hommes meurent, car leur dévouement pourrait sauver le Jupiter, et le Jupiter, l'ermite le veut, doit périr. Notre commandant, spectateur attentif et impassible de cette scène de carnage, s'adresse de nouveau à ses officiers. « Jamais, messieurs, leur dit-il, les Anglais ne parviendront à étancher cette brèche sans changer d'amure. Cela est humainement impossible. S'ils n'avisent à un autre moyen de salut, avant un quart d'heure d'ici, le Jupiter coulera en ne laissant sur les flots, comme seul souvenir de sa grandeur et de sa force passée, que quelques débris humains et sanglants. Qu'on prépare nos canots pour les sauver. » Pendant 10 minutes, les Anglais s'obstinent à leur œuvre impossible. Encore quelques secondes, et la prophétie de notre capitaine va être accomplie. Tout à coup, l'ermite pâlit, et poussant une espèce de rugissement, lui, d'ordinaire si calme et si impassible, frappe avec fureur de son pied son banc de car et s'écrie, les yeux fixés sur le Jupiter. Mais il laisse arriver. Il évente son grand hunier et oriente sous toutes les voiles possibles au plus près. Orientez aussi les nôtres, enfant. Et voyons. Si désireux de venger ces désastres, il nous permettra d'achever notre victoire en acceptant l'abordage. » L'équipage, qui en ce moment abandonnerait volontiers toutes ses parts futures de prise pour en venir aux mains, car il a soif de carnage, exécute cette manœuvre avec une rapidité et une précision qui tiennent du prodige. Le Jupiter, après avoir pris un peu d'air sous cette allure et nous avoir dépassés sur l'avant de quelques centaines de toises, loin de se prêter à une rencontre qui dépend de lui seul, envoie vent devant Amur sur tribord pour mettre sa brèche hors des atteintes de la vague et de notre artillerie, et prend la fuite devant nous. De son côté, la frégate victorieuse prend les mêmes amures, bouline au plus vite les lambeaux de ses voiles et poursuit, sous une risée, hélas, de plus en plus mollissante, l'ennemi qui se sauve en tirant sur nous en retraite. « Efforts inutiles !» s'écrie l'ermite d'un ton désespéré, car cet homme, que l'attente d'une catastrophe terrible et presque inévitable a trouvé impassible et froid, ne peut contenir son dépit devant une victoire qui lui échappe. « Efforts inutiles ! Le Jupiter nous a déjà gagné de l'avant d'une demi-portée de 18. Monsieur Fabre, faites arriver vent arrière et lâchez-lui notre bordée d'adieu. Qui sait si le ciel, qui nous a si fort protégés jusqu'à présent, ne permettra pas que nous le démations avec notre dernier boulet ?» L'exécution de cet ordre ne se fait pas attendre, mais la précipitation avec laquelle il est exécuté en empêche tout l'effet. Le Jupiter continue de fuir. « Ah, le lâche ! » s'écrie l'ermite, qui les narines gonflées par la colère et les yeux flamboyants, suit d'un regard désespéré le vaisseau qui nous gagne de plus en plus de vitesse. « Ah, le lâche ! Ce capitaine mériterait d'être dégradé honteusement, quoi ?» Il commande un vaisseau, un équipage nombreux, tout frais, qui n'a été décimé comme nous à La Goa par aucune rencontre antérieure à celle-ci, et il fuit. Et il fuit devant une frégate délabrée, devant une poignée d'hommes, le lâche. Mais quelques secondes suffisent pour rendre l'ermite au sentiment de la raison et à celui des convenances. J'ai eu tort de m'exprimer ainsi que je viens de le faire sur le compte d'un officier supérieur de marine. « Messieurs, » reprend-il en s'adressant à ses officiers, « oubliez, je vous prie, mes paroles, ou ne les attribuez qu'à mon dépit. Le Jupiter s'est bravement conduit. Qui pourrait prétendre le contraire? Si contre toutes les probabilités il a été vaincu, la cause en est au hasard des combats. Commandant, je vous demande pardon. S'il a été vaincu, c'est qu'il avait affaire à vous, » s'écrie Graffin, qui les cheveux encore en désordre, les yeux encore animés par le feu du combat, le sourire sur les lèvres, était magnifique à voir. Et la preuve de cela, c'est que si au lieu de commander la preneuse, vous eussiez été à bord du Jupiter, le Jupiter, au lieu d'être en fuite, serait occupé à présent à mariner la preneuse. « Capitaine, je regrette, pour cet instant, que vous soyez mon supérieur. Mais ma foi, tant pis. Tout le monde sait que l'enseigne Graffin n'est ni un courtisan ni un flatteur. Eh bien, vous vous êtes conduit comme un héros. N'est-ce pas, messieurs ?» Les officiers que M. Graffin interrogeait appuyèrent l'opinion de l'enseigne avec une chaleur pleine d'enthousiasme. L'ermite, dont la modestie égalait le génie et l'intrépidité, embarrassé de cette espèce d'apothéose, ne savait quelle contenance tenir, et regardait d'un air de reproche l'enseigne Graffin en admiration devant lui. Cette petite scène intime me parut, après les horreurs d'un combat, d'un effet saisissant. « Je vous remercie, » le répondit enfin l'ermite, « de la confiance que vous avez en moi, car cette confiance m'est précieuse sous tous les rapports. Quant à ma conduite d'aujourd'hui, vous en exagérez infiniment trop le mérite. Ce que j'ai fait, tout autre capitaine, surtout en pouvant s'appuyer sur un corps d'officier semblable au mien, l'eût fait comme moi. Nous avons été heureux, voilà tout. Mais, hélas, » ajouta-t-il, en jetant un triste coup d'œil sur le pont inondé de sang, que des matelots étaient alors occupés à laver, combien nous payons cher notre gloire stérile. Ah, si du moins la capture du Jupiter dédommageait la France de ce sang versé. L'ermite se tut alors et, baissant la tête, il resta pendant quelques instants plongé dans de tristes et douloureuses pensées qui se reflétaient comme dans un miroir sur son noble et franc visage. « Ah, messieurs, » dit-il enfin, en s'adressant de nouveau à ses officiers, « quelle terrible responsabilité que celle qui pèse sur un commandant de navire. Si j'eusse obéi à mes instructions en combattant sous voile, la preneuse n'appartiendrait plus à la France et nous serions en ce moment au pouvoir de l'Anglais. « Oui, mais vous me direz que notre audace nous a sauvés, c'est vrai. Seulement, je vous avoue qu'en songeant au blâme qui m'eût accueilli si nous eussions échoué, et cela n'était que trop possible, je suis encore tout effrayé de mon bonheur. Enfin, grâce à votre intelligent et intrépide concours,
grâce à celui de l'équipage, nous sommes vainqueurs. » La chasse continuait toujours, et malheureusement la distance qui séparait les deux navires s'agrandissait de plus en plus lorsqu'un des boulets lancés en retraite par le Jupiter vint froisser un de nos mâts. L'ermite, qui depuis quelques instants était resté plongé dans de sombres réflexions, appela aussitôt son lieutenant en pied. « Monsieur d'Albarade, lui dit-il d'une voix légèrement émue, « faites cesser le feu, nous allons retourner continuer notre croisière. » Cet ordre, auquel personne ne s'attendait, produisit une immense impression sur l'équipage. Un grand silence se fit, qui dura jusqu'à ce que M. Fabre, visiblement affecté lui-même, fit servir pour regagner le point d'où le Jupiter nous avait forcé de nous éloigner. Alors, une rumeur désapprobatrice, ainsi qu'une traînée de poudre qui s'enflamme, courut d'un bout à l'autre de la frégate.
« Capitaine, est-il donc possible que nous renoncions à poursuivre l'ennemi ?» s'écria M. Graffin en se faisant involontairement, emporté par sa fougue naturelle, l'écho du désappointement général causé par cet ordre.
« Oui, monsieur, lui répondit froidement l'ermite, cela est possible.
Mais, capitaine, silence, monsieur, je n'aime pas certaines questions, lui dit l'ermite d'un air sévère. La rougeur de la colère, peut-être bien encore de la douleur, empourpra les joues du jeune enseigne, qui s'inclina sans ajouter une parole. Une larme, séchée aussitôt, amortit l'éclair de son regard en passant rapide et presque invisible sur ses yeux. M. Graffin éprouvait un vrai culte pour son capitaine. L'ermite, sans avoir l'air de s'apercevoir de cette scène muette, se mit alors à se promener sur la dunette. L'irrégularité de son pas saccadé montrait, quoique son visage ne décelât qu'une complète expression d'indifférence, l'émotion intérieure qui l'agitait. Enfin, s'adressant à ses officiers, qui, silencieux et immobiles, semblaient désespérés et se tenaient à l'écart. « Hélas, messieurs, leur dit-il, je conçois votre désappointement et je ne puis vous en vouloir. Monsieur Graffin, je reconnais que votre question, déplacée au point de vue de la discipline, était un cri du cœur et je vous excuse. Vous êtes, Graffin, plein de sève et d'avenir. Jamais officier n'a été plus brillant et plus intrépide que vous. Mais permettez-moi, en considération de mon expérience et de mon âge, de vous donner un conseil. L'homme de guerre, quel qu'il soit, qui ne sait pas se vaincre lui-même, ne saura jamais vaincre l'ennemi. Retenez bien ceci. Cette vérité qui peut vous sembler banale est tout bonnement le secret des grands hommes. C'est à elle qu'ils doivent être devenus ce qu'ils sont. Quant à moi, messieurs, et mon Dieu, je sais bien que mon devoir apparent, du moins, serait de poursuivre l'ennemi. Croyez que j'étais obligé de me raisonner moi-même plus énergiquement que vous ne pourriez le faire, avant de me résoudre à renoncer à ce projet. Réfléchissez cependant un peu sur les suites probables de cette poursuite. Pour la gloire, qui rejaillirait sur moi seul, d'avoir donné pendant quelques heures la chasse à un vaisseau de 64, j'expose la frégate à être dématée. Un malheureux boulet, rien qu'un seul, qui nous abattrait un mât, messieurs, suffirait pour nous ravir la victoire que nous venons de payer si cher. Cette idée me fait peur. » Ces explications bienveillantes que l'ermite, connaissant l'attachement qu'il lui portait, voulait bien donner à ses officiers, firent revenir de suite ceux-ci de leur mauvaise humeur, et se répandant dans l'équipage, ne tardèrent pas, l'excitation du combat s'étant un peu calmée, à être également appréciée des matelots. L'ermite, après avoir pourvu aux plus urgents besoins du navire, désirant connaître le nombre des victimes que lui coûtait le combat avec le Jupiter, ordonna l'appel général. Je ne puis exprimer l'émotion poignante qui se peignait sur son visage lorsque les hommes qu'il affectionnait ou qu'il estimait particulièrement ne répondaient pas à leur nom. Du reste, domptant sa douleur le plus longtemps possible, il subit cette rude épreuve à plus de moitié. Enfin, n'en pouvant plus et ne voulant pas laisser deviner sa noble faiblesse, dont tout le monde s'était aperçu sans qu'il s'en doutât, il sortira dans sa cabine en affectant une indifférence bien loin de son cœur. Je parierais, sans crainte de perdre, qu'une fois seul, cet homme qui levait le front si haut devant les hasards des combats, et qui, mettant la gloire de la France avant tout, savait sacrifier impitoyablement le moment opportun venu le sang de son équipage, je parierais, dis-je, qu'une fois seul, il pleura. Les quelques jours qui suivirent notre victoire s'écoulèrent tristes et sombres pour tout le monde.
Le grand nombre de blessés que nous avions à bord rendait le service plus pénible. Le manque de provisions, du moins relativement parlant, qui nous imposait déjà de dures privations. Le mauvais temps ordinaire qui continuait de durer et ne cessait un instant que pour faire place à ces terribles tempêtes. L'effroi des anciens navigateurs, qu'apportaient les vents du sud-est dans ces redoutables parages, augmentaient nos fatigues et commençaient à amener la maladie à bord de la frégate. La fatalité qui jusqu'alors semblait s'être acharnée après nous était loin de se ralentir. En vain, nos vigies examinaient-elles avec soin l'horizon, pas une voile ne se montrait. Et cependant, nous nous trouvions, au point de vue de l'intérêt, dans les meilleurs parages possibles, dans une latitude forcément fréquentée par tous les vaisseaux dont la course s'étend au-delà de l'équateur. L'équipage, rendu plus superstitieux encore par cette longue série de malheurs, commençait à prétendre que le navire était maudit. Chacun se rappelait une circonstance néfaste qui avait précédé notre départ de l'île de France pour cette croisière. L'état moral des hommes s'empirait de plus en plus chaque jour. Une seule idée nous soutenait, celle que bientôt nous voguerions vers l'île de France. Alors, que de projets de bonheur réalisés! Cette fois, ce ne sont plus des orgies que rêvent les matelots. Plus de barriques d'eau-de-vie entières servies en guise de bol de punch. Plus de séduisantes mulâtresses ou carteronnes, non, mais de l'eau glacée et des fruits à discrétion, des légumes savoureux, de la verdure. Chaque jour, cependant, la réalisation de ces rêves reculait. Le capitaine semblait ne plus songer à l'île de France. Nous croisions toujours. Si les jours étaient tristes et sombres, combien la nuit l'était plus encore. Une tempête continuelle, enveloppée d'épaisses ténèbres, pas un moment de repos. Bientôt deux fléaux vinrent mettre le comble à la mesure de nos maux et jeter la terreur parmi l'équipage. Le scorbut et la gangrène se déclarèrent tout à coup à bord avec une violence extrême. Le scorbut, que tout le monde connaît de nom, sans savoir au juste quels affreux ravages il exerce, est, sans en excepter aucune, pas même la peste, la plus affreuse de toutes les maladies. Le 89e jour depuis notre départ de l'île de France, car nous comptions tous, dans notre anxieuse impatience, les jours à mesure qu'ils s'écoulaient, je me trouvais sur la dunette, à mon poste habituel, lorsque le lieutenant Rivière, se détachant d'un groupe d'officiers, s'en vint droit à l'ermite qu'il salua profondément. « Parlez, monsieur, lui dit celui-ci, que désirez-vous ? » « Capitaine, reprit monsieur Rivière, je suis chargé par mes camarades de vous demander, au nom de la bienveillance que vous avez toujours daigné nous témoigner, si notre croisière doit se prolonger encore bien longtemps. » « Ne croyez pas au moins, capitaine, se hâta de poursuivre monsieur Rivière, que ce soit une vaine curiosité ou un sentiment de faiblesse qui nous pousse à solliciter de vous une réponse à ce sujet, non. Mais chaque jour, nous assistons au désespoir et à l'accablement de l'équipage. Chaque jour, en visitant les blessés et les malades, nous sommes assaillis de questions désespérées et auxquelles nous ne savons que répondre. Pourtant, quelques bonnes paroles d'espoir, si nous étions autorisés à les prononcer, pourrait probablement sauver bien des hommes dont le moral affecté double la violence de la maladie qui les accable. Faut-il donc que nous les laissions succomber ainsi? 30 hommes sont déjà morts depuis notre combat avec le Jupiter. Le capitaine écouta le lieutenant Rivière, sans l'interrompre, avec la plus grande attention. « Monsieur, lui dit-il après qu'il eût cessé de parler, je ne puis vous faire personnellement la réponse que vous sollicitez de moi. Je dois l'adresser à ceux qui vous ont envoyé me trouver. Venez. » L'ermite, se dirigeant alors vers le groupe d'officiers qui attendait en silence l'issue de cette négociation. « Messieurs, vous désirez savoir si, oui ou non, je compte continuer notre croisière ou bien faire route pour l'île de France, n'est-ce pas ? » Les officiers s'inclinèrent en signe d'assentiment. « Eh bien, messieurs, reprit l'ermite, comme je ne veux passer ni pour un homme inflexible et cruel, ni pour un capitaine despote et entêté, j'agirai selon votre bon plaisir. Seulement, veuillez, je vous prie, avant de vous prononcer sur ce sujet délicat, vous rappeler une chose. C'est que je remets mon honneur, vous connaissant tous pour des gens de cœur et d'intelligence, entre vos mains. C'est que sur moi seul retombera la responsabilité de la décision que vous allez prendre. À présent, voici ma position. jugez avec réflexion et prononcez-vous ensuite avec franchise.
Mes instructions, reprit l'ermite après une légère pause,
sont d'autant plus précises, rigoureuses, que la preneuse étant en ce moment le seul navire que possède la France dans les mers des Indes pour défendre les intérêts de son commerce et tenir en respect l'ennemi, on est en droit d'attendre et de compter beaucoup sur nous.
Mes instructions portent que tant que les avaries ne compromettront pas d'une façon évidente le salut de la frégate,
tant que nous aurons encore assez de munitions pour soutenir un combat, un nombre de canonniers suffisant pour le service des pièces, nous devrons tenir la mer.
À présent, messieurs, prononcez-vous hardiment.
Pensez-vous, en votre âme et conscience, que si demain nous rencontrions l'ennemi, nous en serions réduits à amener nos couleurs sans les défendre,
que si le combat s'engageait, nous n'aurions pas une chance au moins minime d'en sortir victorieux?
Quant à moi, je réponds non. Nous n'en sommes pas réduits à craindre pour l'honneur de notre pavillon.
Non, nous ne fuirions pas l'Anglais.
Non, il ne serait pas sûr de nous vaincre.
L'Anglais nous battre et nous battre lorsque vous nous commandez, capitaine, s'écria Graffin avec feu et d'un air indigné.
C'est là une supposition qu'en croyant même aux choses fabuleuses et impossibles, on ne peut admettre.
À présent, messieurs, continua l'ermite, sans paraître remarquer l'interruption du jeune enseigne, prononcez-vous.
Je vous répète que j'accepterai votre décision.
Capitaine, répondit le lieutenant en pied, nous vous remercions de tout notre cœur des explications bienveillantes et volontaires que vous avez bien voulu nous donner, et de la confiance que vous êtes assez bon pour nous témoigner.
Quant à moi personnellement, et je suppose que ces messieurs partagent à présent mon opinion, je trouve que l'honneur et le devoir vous commandent impérieusement de continuer cette croisière.
Oui, capitaine, répétèrent les officiers en chœur et à l'unanimité, il faut continuer notre croisière.
Dame, après tout, nous en sommes quittes pour nous amuser un peu plus une fois à terre, dit M. Rivière, le seul qui eût conservé toute sa bonne humeur.
Car enfin, les instructions du capitaine doivent porter une date.
Il faudra bien tôt ou tard que cette date arrive.
Et vive la gaieté. Ça n'avance à rien de s'affecter le moral.
Néanmoins, à partir de ce moment, l'équipage n'ayant plus aucun aliment à donner à son imagination et ne s'attendant plus à chaque instant à faire route pour l'île de France, se laissa aller à une sombre tristesse. Le scorbut augmentait chaque jour de violence.
Je me rappelle encore avec un serrement de cœur le lugubre et navrant spectacle que présentait chaque matin le pont de la frégate. Un peu après le lever du soleil, quand le soleil se montrait, on y transportait les malades pour leur faire respirer l'air. C'était hideux à voir. La plupart des gens attaqués du scorbut avaient le bas de la figure horriblement gonflé, leurs lèvres béantes, flétries par une salivation continuelle, laissait apercevoir des gencives noires, tuméfiées, des dents longues et tremblantes. Leur corps, gonflé à partir des extrémités, était ordinairement marbré, surtout dans la dernière période de la maladie, de taches livides et bleuâtres. Les malheureux atteints de ce terrible mal, pâles comme des cadavres, maigres comme des squelettes, et brisés par la douleur, attendaient avec impatience, mais sans avoir souvent la force de se plaindre, leur solennel de la délivrance et de l'éternité. Ceux à qui une constitution robuste ou un moral énergique laissait la vigueur de la pensée s'occupaient à calculer froidement le temps qu'il leur restait encore à vivre. La façon dont ils opéraient ce calcul était certes plus infaillible que n'eût pu l'être le diagnostic du plus habile médecin. Ils marquaient, chaque soir, au moyen d'une ficelle, les progrès de l'envahissement du fléau. Et édifié ainsi sur sa rapidité, il pouvait prédire à quelques heures près le moment où le gonflement du corps, atteignant le cœur, devait les étouffer. Un matin, le capitaine, en allant prodiguer ses consolations aux malades, trouva étendu sur le gaillard d'arrière un contremaître, jeune homme de tête et de cœur, qu'il affectionnait particulièrement, et qu'il destinait dans sa pensée, disait-on, à devenir plus tard officier. L'infortuné, atteint depuis plus d'une semaine du scorbut, était alors dans un horrible état. L'ermite lui adressa d'une voix émue quelques paroles de consolation. « Merci, capitaine, pour vos bontés.
lui répondit l'infortuné. Mais l'espoir ne m'est plus permis. L'enflure est arrivée jusqu'aux hanches. Je n'ai plus, heureusement, pour longtemps à souffrir.
Bon, mon ami, il ne faut pas se laisser abattre ainsi. Voyons, réfléchissez, que puis-je pour vous ?
Rien, capitaine, rien. Et comme l'ermite insistait,
« Eh bien, capitaine, lui répondit le jeune contremaître, puisque vous tenez absolument à m'être agréable, éloignez-vous de moi et ne me parlez plus jamais. C'est tout ce que je vous demande. »
Ces paroles, qui eussent été grossières sans le ton d'accablement et de désolation avec lequel elles furent prononcées, firent une vive impression sur l'ermite.
« Et pourquoi désirez-vous que je ne vous parle plus jamais, mon ami ? » demanda-t-il au mourant.
« Parce que... j'ai peut-être tort de vous avouer cela, capitaine, mais je souffre tant que vous m'excuserez parce que, en songeant que de votre volonté seule dépend notre retour à l'Île-de-France, un mot de vous nous rendrait le bonheur et la santé.
Eh bien, votre vue me fait mal.
Pardon, je ne voudrais ni vous offenser ni vous causer la moindre peine, mais c'est vrai, votre vue me fait mal. »
À cette réponse du contremaître, l'ermite leva les yeux au ciel et, abandonnant le gaillard d'arrière, s'en fut, sans prononcer une parole, s'enfermer dans sa chambre.
Le lendemain vers midi, l'ermite retourna voir le malheureux contremaître.
« Mon ami, vous êtes trop faible en ce moment pour que je puisse imputer à mal votre langage d'hier. Ayez du courage. Dans quelques minutes d'ici, votre sort va se décider. »
Si mes lettres d'expédition, dont je ne puis prendre connaissance qu'aujourd'hui, 30 octobre, à midi, me permettent de retourner à l'Île-de-France, j'en serai plus heureux que vous-même. Car si vous souffrez chacun pour votre seul compte, moi, je souffre pour vous tous. Si mes instructions veulent que nous continuions à croiser, eh bien nous croiserons, le devoir avant tout. »
Ces paroles de notre capitaine, qui se répandirent aussitôt à bord avec la rapidité de l'éclair, produisirent une vive impression sur l'équipage. Un silence plus profond encore, certes, que celui qui eut précédé un combat, régna sur le pont. Tous les yeux, fixés avec anxiété sur la porte de la dunette, attendaient la sortie du capitaine. Enfin l'ermite se montra. Il tenait à la main un large pli ministériel déchiré à l'entour du cachet. On eut entendu en ce moment, à bord de la frégate, le bruit produit par la chute d'une feuille desséchée. Les cœurs ne battaient plus. Cependant, heureux présage, ses yeux ne se détournent plus des regards inquiets qui l'interrogent. Son front resplendit, si je puis m'exprimer ainsi, d'une expression de suprême bonté. On commence à espérer. Mais si l'on allait se tromper, ce coup serait trop cruel. Il faut attendre. Les secondes semblent longues comme des heures. Enfin, l'ermite se dirige vers l'officier de quart, M. Raoul. Il ouvre la bouche, il va parler. Les respirations sont suspendues. « Monsieur, lui dit-il, veuillez envoyer un aspirant sur les barres du grand perroquet pour examiner attentivement s'il n'aperçoit aucun navire en vue. » M. Raoul s'empressa de faire exécuter cet ordre et l'ermite se mit à se promener sur la dunette. Seulement, au sourire joyeux qui entr'ouvre ses lèvres, à l'air de contentement intérieur qu'il semble éprouver, l'espoir commence à gagner l'équipage. L'aspirant revient bientôt en annonçant qu'aucun navire n'est visible à l'horizon. « Alors, monsieur, dit l'ermite en s'adressant à l'officier de quart, nous pouvons nous diriger vers l'Île-de-France. Notre croisière est finie. » Une fois cette annonce officielle, des transports de joie éclatent de toutes parts. Les mourants se croient convalescents, les malades guéris. Ceux qui ne sont pas atteints du scorbut ou de la gangrène ne songent plus qu'une longue traversée nous reste à faire, qu'ils peuvent encore devenir les victimes de ces deux affreux fléaux. Non, ils rêvent déjà les joies de l'arrivée et pensent à toute jouissance que va leur procurer l'Île-de-France. Cependant, il en est bien plus d'un parmi eux dont les pieds ne doivent plus jamais fouler la terre. Nos désastres passés sont loin d'avoir désarmé la fatalité qui nous poursuit. Ce qui nous est réservé est bien pire, hélas, que ce que nous avons déjà souffert. Notre retour à l'Île-de-France fut long et pénible. Une chaleur étouffante et des calmes plats et presque continuels, le seul ennui que nous n'eussions pas encore éprouvé pendant cette malheureuse croisière, allongèrent beaucoup la traversée. Pour surcroît de malheur,
les rats de la cale ayant percé un assez grand nombre de pièces d'eau, il fallut se résigner à subir l'affreux supplice de la soif, supplice rendu plus intolérable encore par les rayons de lave que le soleil versait sur nous. J'étais un jour accablé par cette température de fournaise, sur le point de m'endormir dans un coin du pont, lorsque l'enseigne Graffin vint me trouver. « Garneret, » me dit-il en souriant. Monsieur Graffin souriait toujours. « Descendez dans ma cabine, je vais vous parler en particulier. » Je me hâtai d'obéir, assez intrigué de savoir quelle communication cet officier pouvait avoir à me faire. « Garneret, » me dit-il lorsque nous fûmes seuls, « les officiers ont décidé que vous exécuterez en secret, pour être offert au capitaine, nos combats de la baie de Lagoa et au Jupiter. Vous sentez-vous de force à nous dessiner quelque chose de présentable ? Quant aux positions des navires et aux explications dont vous pourriez avoir besoin, nous nous chargeons de vous les fournir. Dans la baie de Lagoa, vous choisirez pour sujet le moment où, près d'être atteint par le brûlot, nous quittons le mouillage. Pour le Jupiter, nous désirons quatre positions, c'est-à-dire quatre tableaux. Cela vous convient-il ? Je suis à vos ordres, monsieur, et je ferai de mon mieux. Vous pouvez en être persuadé. J'espère réussir. Voilà une modestie de bon augure. Et comment exécuterez-vous ces tableaux ? Oh, la vie en couleur. C'était ainsi que l'on appelait alors l'aquarelle. Lui répondis-je, inspiré par une arrière-pensée qui fit bondir mon cœur de joie. Très bien. Vous travaillerez chez nous pour que personne ne vous dérange ni ne vous surprenne. Avez-vous tout ce qu'il vous faut ? « Oui, monsieur. En fait, de papier, pinceaux et couleurs, seulement l'eau me manque. »« Ah ! Parbleu ! » s'écria M. Graffin en souriant. « Vous ne manquez pas au moins de rouerie pour votre âge. Le lavis exige-t-il beaucoup d'eau ? » ?»« C'est selon la manière de l'artiste, monsieur. Moi, malheureusement, je lave beaucoup. Je lave sans cesse. Je suis capable d'user deux carafes en un jour. Je vais tâcher de me les procurer. » Mais songez que cette munificence vous oblige à beaucoup de talent. Si, après avoir tant bu, je veux dire, tant lavé, vous ne réussissez pas, prenez garde. Vous pourriez avoir à vous repentir de votre bonne aubaine d'aujourd'hui. 5 minutes plus tard, j'étais en possession, trésor inestimable et inespéré, de deux carafes pleines. Je laisse au lecteur la liberté de décider si mon papier les but à lui seul. En 8 jours, pendant lesquels je n'eus plus soif, mes dessins furent terminés, je demanderai la permission de ne pas parler des éloges qu'ils me valurent. » L'ermite, touché de cette attention délicate, en remercia vivement ses officiers et m'invita à sa table. Plus de 20 ans après, le capitaine l'ermite, devenu baron et vice-amiral, rappelait en riant ce dîner au peintre Garneret, son ancien matelot et alors son ami.